Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Le logement neuf s'effondre. On n'a jamais connu de tels chiffres depuis que la Fédération des promoteurs immobiliers dispose d'observatoires. Les deux chiffres clés à retenir pour le premier trimestre sont les mises en vente, qui sont au plus bas depuis 2010, et les réservations des particuliers au plus bas depuis 1995. Au premier trimestre, un particulier sur deux qui avait réservé un logement neuf a renoncé, 50%. Généralement, le niveau de désistement habituel avoisine plutôt les 10%. Donc là, ça y est, nous avons le choc d'offres et le choc de demandes cumulées. La crise du logement qui couve, dont beaucoup, enfin, qui est mise en avant par beaucoup depuis un certain temps, se confirme très clairement. Emmanuel Macron, à son tour, exclut de monter les impôts. Alors, on est toujours devant la même question. S'il n'y a pas de dette en plus et pas d'impôts en plus, où est-ce qu'on va trouver les fameux milliards, les 66 milliards d'euros annuels d'ici à 2030 pour financer la transition verte? Vous verrez que Jean-Marc Vittori, qui est avec nous aujourd'hui, a une solution à nous proposer. Ça manque pas d'originalité. Est-ce qu'on mérite vraiment un double A? Alors, on ne sait pas comment les Américains vont tourner avec leur histoire de défaut de la dette le 1er juin, ou pas d'ailleurs. Mais est-ce qu'on mérite vraiment un double A? Parce que quand on voit l'état de nos finances publiques, on a le droit de se poser la question. Et vous savez que très prochainement, le 2 juin, on aura le verdict de Standard & Poor's. Enfin, les AG 2023 s'échauffent sur le climat. Total Energy organise la sienne aujourd'hui. Elle est particulière, cette Assemblée Générale. Total Energy, évidemment, est visée par tous les activistes du climat, vous imaginez, mais également Greenpeace, qui accuse l'entreprise d'avoir très largement sous-estimé son bilan carbone, d'avoir globalement sous-estimé par 3 ses émissions de carbone. Il dira aussi un mot de Clément Beaune, le ministre, qui ouvre la voie à la possibilité peut-être de faire participer le secteur aérien aux autres moyens de transport. En gros, est-ce qu'on fait payer l'avion pour la SNCF ? Fergan Azihari, bonjour.
Bonjour.
Et délégué général de l'Académie libre des sciences humaines. Vous avez publié Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée aux éditions Les Presses de la Cité. Mathieu Plane, bonjour.
Bonjour, Nicolas.
Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Jean-Marc Vittori, bonjour.
Bonjour, Nicolas.
Éditorialiste aux Échos. Je disais choc d'offres, choc de demandes. Si l'offre de logement chute, ça veut dire que la pénurie chronique de logements s'aggrave. C'est le principal problème de ce marché, qui est un marché de pénurie. La demande se tarit car les gens ne peuvent plus acheter, il y a un moment où il y a des gens qui n'ont plus de toit pour se loger. On est vraiment dans une situation sévère. Est-ce que vous considérez que la situation est très sérieuse, Jean-Marc Vittori? Oui.
Oui, évidemment.
Oui.
Évidemment, elle est d'abord la conséquence d'un mouvement simple. Hein. On a eu une hausse des taux d'intérêt, une rapidité comme on n'en a jamais eu.
Hein? Depuis les années 80, oui.
Non. Dans les années 80, dans les années 70, ces taux d'intérêt ont monté. En France, ils ont monté moins vite. Aux États-Unis, mais en France, on n'a jamais eu une hausse des taux pareille. Et hausse des taux d'intérêt, ça se répercute immédiatement sur la mensualité avec un effet levier très fort. Hein. Je crois plus 3, je ne sais plus combien ça, mais plus 3 points de taux, c'est plus 30% de mensualité. Enfin, on a un effet absolument massif. Donc d'un côté, on a ça, et de l'autre côté, on a une mécanique des coûts qui, elle, continue de faire monter les prix. Hein. Donc on a un foncier qui reste extrêmement tendu en France, plus qu'ailleurs, pour des raisons à la fois politiques et administratives. Et on a de nouvelles normes qui ne cessent de venir pour d'excellentes raisons, mais qui renchérissent sans cesse le coût du logement. Discuter avec des professionnels du bâtiment, ils trouvent pas matériaux dont ils ont besoin pour isoler. Et quand ils en ont, ils ont pas les ouvriers parce que ces ouvriers-là, au bout de 15 ans, ils arrêtent de travailler parce qu'ils en ont marre. C'est ça là. Quand vous voyez la réalité du terrain, moi j'ai parlé avec un couvreur la semaine dernière, c'est ce qu'il me décrivait. D'un côté, vous avez des coûts qui montent. On a l'impression inexorablement. Des coûts de production. De l'autre, vous avez des coûts d'acquisition via les taux d'intérêt qui monte. Donc, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas étonnant, mais évidemment, c'est inquiétant, surtout sur une, dans une France qui manque cruellement de logements.
Oui, il y a la norme RE 2020 qui est entrée en vigueur début 2022. Alors, elle a remplacé la RT 2012. RT, ça voulait dire réglementation thermique. RE, c'est réglementation environnementale. Donc, toute l'empreinte carbone du bâtiment. Et ça augmente considérablement les coûts de construction quand vous remplacez du ciment Portland par du béton vert. Je crois que c'est trois fois plus cher. Voilà. Mathieu, par rapport à ce que l'on vit, parce que je l'ai dit récemment, mais quelques centimes de plus sur le litre de carburant, on a vu ce que ça pouvait produire. Si les gens n'arrivent plus à avoir un toit au-dessus de la tête, ça devient un autre sujet. Et là, en plus, on a cette France du multipropriétaire qui s'est bien installée, et effectivement, l'offre locative est en train d'être progressivement siphonnée, et notamment par la baisse des achats de logements neufs à vocation locative, et aussi par le fait que les logements les plus mal notés, les F et les G, vont très prochainement être interdits à la location. Et le propriétaire qui n'a pas de quoi rénover son logement devra le sortir du marché. Et là, je pense qu'on est devant une bombe économique et sociale assez sévère. Ouais.
Oui, tous les ingrédients sont là, hein. Vous l'avez bien, vous les avez mentionnés, Jean-Marc aussi. Je crois que sur le F et G, c'est 5 millions hein, de logements sur les 30 au niveau français. Hein.
Alors je crois un petit peu moins. En tout cas, je sais que quand on aura les E et les D dans les années 2030, on sera à 7 millions de logements qui seront concernés, ce qui est colossal.
Je croyais que déjà on était à 5 avec les F et G. Enfin, mais bon.
Ça fait un logement sur 6.
C'est ça. Mais je crois que c'est un sur 6. Et sur des agglomérations comme Paris, c'est plus. Hein. En plus, et vous avez des effets locaux qui sont quand même très différents. Jean-Marc l'a très bien dit. En fait, on a aussi, on a changé de monde hein, avec la hausse des taux. Hein. C'est-à-dire qu'on a vécu pendant des années, voire, on pourrait dire même presque sur un cycle immobilier très particulier, mais sur les taux, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on a été avec des taux très très bas, qui ont aussi entretenu ce recours à l'endettement hein, et la facilité à l'endettement, qui ont aussi fait une pression à la hausse sur les prix, les prix immobiliers.
C'est l'une des classes d'actifs qui a été dopée par.
Vous regardez l'évolution du prix des actifs fonciers depuis le début des années 90 par rapport aux revenus moyens. Le décalage est considérable. Ce qui joue sur les effets patrimoniaux, transmission, etc.
Mais sur le sentiment de déclassement aussi.
Oui. Alors, c'est peut-être voilà. Mais il y a quand même voilà. Et donc c'est vrai que là, on a tous les ingrédients qui font que le logement est en première ligne sur quelque chose qu'on maîtrise assez mal, hein, qui est effectivement lié à la hausse des taux. Et forcément, le crédit coûte plus cher. Il y a aussi plus de crédits refusés. Après, je donne juste un élément, hein, c'est-à-dire que l'effet plein sur le crédit hein, entre la hausse des taux et l'effet plein qu'on peut avoir sur l'économie, que ce soit sur le crédit aux ménages ou aux entreprises, et sur les taux que les ménages, les particuliers vont payer, c'est entre 12 et 18 mois la transmission. Donc en fait, là, on entre dans le cycle. Et alors, regardez, hein, sur les nouveaux crédits aujourd'hui au logement, ils sont encore en dessous de 3%, je crois. Alors même que le taux de la BCE est à 3,75.
On est à 3 en moyenne hors assurance.
Hors assurance. Mais sur du taux fixe et sur du long terme. Hein.
Sur du taux fixe sur 20 ans.
Voilà. Ce qui veut dire que, du coup, les marges bancaires, elles doivent être négatives dans ce cas-là. Si vous refinancez à 3,75 et que vous prêtez à 3, donc ça veut dire que ça va se transmettre
aussi. Pour les banques aujourd'hui, c'est super compliqué.
Ah, mais c'est super. Elles veulent garder leurs clients.
Ben oui,
elles veulent garder leurs clients. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est. La diffusion de la hausse des taux courts, elle n'est pas terminée. C'est-à-dire que, regardez aux États-Unis, hein, je ne sais plus, sur le prix hypothécaire, je crois qu'ils sont à 6 ou 7%.
J'ai pas le chiffre.
Donc, c'est considérable. Donc, je veux dire, on en est au début hein, de ce cycle-là. Donc, un effet négatif, effectivement, sur la demande de crédit. Un choc négatif sur le pouvoir d'achat. On a le retour de l'inflation avec, on le voit bien, les salaires ne suivent pas cette inflation un pour un. Donc, on a un choc négatif sur le pouvoir d'achat. Et puis, tous les chocs d'offres négatifs que vous avez mentionnés sur la question du logement, sur les permis de construire, sur les coûts de construction, sur les nouveaux DPE et le fait qu'on va sortir certains logements. Donc on a quelque chose, c'est vrai que c'est une bombe économique, sociale et politique quand même, hein, qu'il va falloir gérer très clairement.
Alors il y a trois mesures d'urgence, même quatre, qui sont souhaitées, qu'on libère les banques pour qu'elles puissent prêter davantage, mais avec le risque de gonfler le surendettement, ça voudrait dire actualiser encore plus le taux d'usure, ça voudrait dire relever le taux d'effort, ça voudrait dire prêter au-delà de 25 ans, ce qui pour l'instant n'est possible que dans un cas très très, un nombre de cas très très réduit, voire faire une pause sur les règles environnementales. Après il y a la question du foncier.
Bon. Oui. La question du foncier qui est un des enjeux principaux, on le sait tous les experts qui s'intéressent à la question immobilière vous disent que le problème de la pénurie du logement en France, c'est une question principalement foncière, c'est-à-dire que pour des raisons politiques, pour des raisons esthétiques, pour des raisons aussi corporatistes, le fameux Not in my backyard, on s'interdit en France de densifier davantage dans certaines villes pour ne pas fâcher les propriétaires. Il y a un slogan qui est très répandu en politique, c'est que un maire qui bâtit est un maire qui est battu.
Bien sûr.
Donc tout ça, en effet, pousse à la hausse les prix de l'immobilier et c'est en effet une bombe économique et sociale, d'autant plus que vous avez toute une littérature qui vous dit que la question du logement, en fait, elle est centrale dans le sentiment de déclassement des individus dans les pays occidentaux. C'est pas seulement une question française.
C'est normal, d'ailleurs.
C'est une question qui concerne aussi bien les Britanniques, les Américains. C'est-à-dire que lorsque vous prenez les budgets des ménages, c'est-à-dire que la part de l'alimentation a diminué ces dernières décennies grâce aux gains de productivité, la mondialisation et compagnie, la part de tout ce qui est vêtements a aussi diminué. Et le logement fait partie de ces rares secteurs où la part dans le budget des ménages a complètement augmenté, ce qui alimente en effet un sentiment de déclassement, mais ce qui a aussi des effets économiques, macroéconomiques assez importants, puisque lorsque vous avez un marché du logement qui est atrophié et donc des grands bassins d'emploi qui deviennent des espèces de forteresses inaccessibles aux gens les plus modestes, et bien c'est toute l'ascension sociale qui est aussi bridée. C'est-à-dire que jadis, la ville, la métropole était une perspective d'ascension sociale. On migrait, il y avait un exode rural, on migrait vers les grands bassins d'emploi dans l'espoir de bénéficier effectivement d'une économie beaucoup plus productive et de salaires beaucoup plus élevés. Aujourd'hui, ces métropoles se transforment en forteresses, ce qui alimente une dynamique de ségrégation avec des conséquences immédiates sur l'ascension sociale des gens les plus modestes.
Totalement d'accord avec ce que vous venez de dire, et c'est un vrai sujet. Pour l'instant, c'était la présidente de Nexity, Véronique Bédague, qui accusait le gouvernement de déni sur la question du logement. J'ai pas l'impression que les choses aient beaucoup
juste peut-être une dernière chose. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Marc sur le fait qu'une partie du renchérissement du coût de logement ça reposait sur de très bonnes raisons, à savoir l'augmentation des normes écologiques. Moi, je pense quand même qu'on est assez laxiste dans l'évaluation du rapport coût-bénéfice de ces normes-là.
C'est Esther Duflo. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ben, la dernière fois, je me souviens d'une prise de parole d'Esther Duflo qui interrogeait l'efficacité écologique de la rénovation des bâtiments et qui émettait l'hypothèse que les coûts d'abattement en matière de réduction de gaz à effet de serre étaient très élevés et que ce n'était peut-être pas la priorité si on voulait décarboner le plus rapidement possible au moindre coût. Je pense qu'il y a un vrai problème avec la politique environnementale en France et en Europe, c'est qu'on n'évalue pas suffisamment bien les secteurs à prioriser pour décarboner le plus vite possible au moindre coût social possible. Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'en excluant 5 millions de logements du marché locatif, est-ce que c'est vraiment la mesure la plus efficace économiquement et socialement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Est-ce qu'il n'y a pas des priorités dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des transports? Et donc cette notion d'arbitrage coût-bénéfice et de coût d'abattement, je trouve qu'elle est insuffisamment discutée dans l'élaboration des politiques environnementales.
Non mais c'est totalement juste de se dire que est-ce qu'il faut effectivement exclure des logements dits passoires thermiques en laissant des locataires à la rue? Voilà. Entre les deux,
est-ce qu'il faut soigner le patient en le tuant?
Non, mais il n'y a pas des
voies plus efficaces et moins douloureuses pour réduire les émissions de gaz à effet de serre?
On va en parler dans un instant, mais Elisabeth Borne, elle nous a dit bâtiment, industrie, transport. Les trois priorités. Encore quelque chose là-dessus, Mathieu?
Le logement fait partie effectivement des axes assez importants dans la réduction des émissions de CO2, quand on voit le rapport Pisani-Ferry avec le transport notamment. Cette question, elle est assez fondamentale aussi du financement, effectivement, de la rénovation thermique des bâtiments. Beaucoup de propriétaires n'ont pas forcément aussi les moyens de le faire.
C'est 35 000 euros en moyenne.
La question, du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens d'avancer justement ces travaux et récupérer sur la facture énergétique? Parce qu'il y a un gain d'efficacité, mais on voit, il y a toute une mécanique qui déborde. Compliquée.
Il y a des projets là-dessus. Oui, France Stratégie qui a travaillé sur un projet de financement par un tiers qui prendrait le risque, qui s'occuperait du financement, qui piloterait la rénovation et qui se paierait sur les factures ultérieures.
Ce qui n'est pas une mauvaise idée, je trouve. Enfin, il y a toute une mécanique financière à mettre en place, à réfléchir, parce qu'on voit bien qu'il y a un point de blocage, vu les coûts qui sont engendrés. Quand France Stratégie dit, l'investissement nécessaire pour le ménage moyen entre la voiture et le logement, c'est une année de revenus.
Oui, c'est ça.
Et qui peut tout... Enfin, vous voyez combien de points de PIB ça peut représenter? Qui peut aujourd'hui facilement investir là-dessus, sachant qu'effectivement vous êtes en plus avec des contraintes de budget, de pouvoir d'achat qui sont importantes. Quoi.
La semaine dernière, il y avait Emmanuel Le Chypre à votre place. Vraiment en direct, on s'est amusé à faire le calcul avec le nombre de ménages français si on disait, ben voilà, l'État vous paye la nouvelle voiture et la nouvelle chaudière. Ouais. Combien ça coûterait? Je sais plus quel chiffre.
Si une année de revenus, c'est facile. Hein,
ouais, mais quel est le coût par tonne de CO2 C'est ça la question qu'il faut poser. Quel est le coût par tonne de CO2 évité? Ces questions-là, je ne les trouve jamais dans le débat.
Le coût.
Je veux dire, le coût par tonne de CO2 évité.
Il y a un économiste qui s'appelle Christian Gaullier.
Tout à fait. C'est l'un des rares.
Voilà, qui met ça sans arrêt en avant. Et il a raison. Si vous payez 800 euros pour éviter une tonne de CO2 et que vous pouvez payer 50 ou 100 euros,
200 euros quand
c'est stupide de dépenser les 800 euros. Et avec des mesures, avec certaines mesures sur le logement, on arrive à des coûts d'abattement,
hein, un coût donc,
pour éviter une tonne de CO2, on arrive à des coûts qui se chiffrent en centaines d'euros, alors qu'on pourrait faire des efforts qui coûteraient 5 fois moins cher, qui auraient le même effet sur le CO2.
Dans le secteur de l'énergie, par exemple.
Voilà. Il est super bien renseigné, le rapport Pisani-Ferry, sur tous les différents secteurs, les tonnes émises tous les ans. Si, les efforts demandés.
La question
demandés...
des rapports Nord-Sud est complètement absente.
Ah, bah, d'accord.
Et je trouve que là-dessus, c'est fondamental. C'est-à-dire que moi, je renvoie au livre de François Gémen, qui est un politologue.
Alors lui aussi, c'est un vrai expert des questions climatiques.
Voilà, et qui dit, très justement, que les coûts d'abattement les plus faibles aujourd'hui, c'est l'investissement dans les pays du Sud. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve jamais dans le débat public. C'est-à-dire qu'on est comme si.
Que je comprenne bien, Fergan,
une question simple. Quel serait le moyen le plus efficace, le moins coûteux, pour réduire les émissions de CO2 à l'échelle de la planète?
Voilà.
C'est quoi?
Investir dans les pays du Sud.
Exactement.
Plus concret, soyez plus concret, Nicolas.
C'est les centrales à charbon.
C'est aider l'Inde à ne plus construire de centrales à charbon. C'est la mesure qui coûterait de très loin le moins cher pour éviter les émissions de CO2. Personne n'en parle.
Exactement.
Non, les centrales à charbon, c'est une catastrophe. Que les centrales à charbon.
Et
ça, vous ne trouverez jamais dans les publications nationales.
Dans un très bon journal qui s'appelle Les Échos, je crois que c'est Éric Le Boucher, qui est aujourd'hui même, je crois, aujourd'hui, dit exactement ça.
Non, mais c'est une vraie question.
J'aime bien cette démarche intellectuelle qui consiste à se dire comment on pourrait faire autrement de manière intelligente. Ça nous amènera d'ailleurs à cette tribune que vous avez signée dans Les Échos, Jean-Marc Vittori, cette semaine. Je dois reconnaître que je ne m'y attendais pas. Je l'ai lu. Rapport Pisani, Fergan Aziari. C'est sympa, 66 milliards d'euros tous les ans d'ici à 2030. Mais alors, il n'y aura pas de dette, il n'y aura pas d'impôt. Ça y est, maintenant. Et
c'est Macron qui le dit. Ça.
Quand Bruno Le Maire le dit, le président de la République, ça s'appelle un engagement politique. Il y a un moment, on ne peut pas dire ça au mois de mai et décider qu'on va augmenter.
Mais déjà, je pense qu'il faut revenir sur le contexte du rapport Pisani-Ferry. Bon, il y a des choses intéressantes dans le rapport Pisani-Ferry.
Objectivement, il y a plein de trucs passionnants.
Et puis, il y a aussi des trucs vachement démagos, voilà. C'est-à-dire que l'ISF climatique, pour moi,
fait c'est démago.
Ces choses complètement démagogiques. Oui, mais non, mais c'est consternant. Je veux dire, on perd du temps, on perd un temps fou. Non, mais on perd un temps fou avec ce genre de mesures. On sait que la transition écologique, c'est le chantier du 21e siècle. C'est un chantier qui est coûteux. C'est un chantier qui est gourmand en capitaux. C'est un chantier qui va nécessiter d'alimenter des flux massifs d'épargne et de capitaux, des flux qu'on tend à sous-estimer, à mon avis. Et donc là où le premier réflexe des économistes sérieux et sincères devrait consister à dire, comment on fait pour encourager davantage les ménages, les entreprises à moins consommer, à épargner plus et à investir davantage dans la transition écologique et les infrastructures bas carbone? On propose un impôt sur le capital dont on sait qu'il a pour effet de ralentir l'accumulation du capital. Donc tout ça est d'une démagogie qui est quand même assez consternante. Moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Pisani-Ferry quand il dit que la transition écologique implique des transformations d'ampleur comparables aux grandes révolutions industrielles du passé. Il a tout à fait raison de dire ça, mais je ne me souviens pas que les grandes révolutions industrielles du passé étaient alimentées par la confiscation. Je suis désolé, ce n'est pas en confisquant les patrimoines que l'Angleterre a recouvert son pays de chemin de fer au 19e siècle. C'est en sollicitant des capitaux privés, en les rémunérant à leur juste valeur. Ce n'est pas en confisquant le patrimoine des ménages aisés que la France a commencé à bâtir ses premiers réseaux électriques dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'est là encore en invitant les ménages à investir dans des régimes de concession. Et si on parle d'écologie, prenez l'exemple du parc nucléaire français, ce n'est pas en confisquant les patrimoines que la France est dotée de son parc nucléaire. La Cour des comptes le rappelait en 2012, 50% du parc nucléaire français a été financé par autofinancement sur les fonds propres d'EDF, 8% seulement par les dotations d'État, et les 42% restants, c'est de l'emprunt sur les marchés financiers. Donc vous voyez bien que pour emprunter sur les marchés financiers, il faut de l'épargne, il faut accumuler de l'épargne, et donc il faut encourager les gens à accumuler du patrimoine et pas les dissuader à travers un impôt sur le capital. J'ai vraiment du mal à comprendre comment des gens qui se targuent de l'effet dissuasif de la fiscalité environnementale à l'égard des pollutions ignorent complètement l'effet dissuasif de la fiscalité patrimoniale à l'égard de l'accumulation des capitaux. Donc oui, il faut solliciter les ménages les plus riches, ça c'est normal, mais les solliciter par les mécanismes du capitalisme est une manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus juste de procéder que de les solliciter par la confiscation.
C'est ce que disait Jean-Hervé Lorenzi ici même, c'était hier, mais il faisait la remarque, alors c'est un peu son dada Jean-Hervé, mais il dit l'argent est chez les vieux aujourd'hui. Et les vieux, quand vous avez 60 ans et plus, vous n'avez pas envie de prendre de risques. Et donc il dit ça marchera dans la mesure où l'État apporte une garantie derrière. Et à ce moment-là, l'investissement privé va peut-être effectivement décoller. On va marquer une pause. Dans un instant, je vous fais réagir à la démonstration. Non, mais la démonstration de Fergan, est quand même... il faut agir par le capitalisme et pas la confiscation. Je crois que ça, c'est un terme de débat.
Fermer la porte à l'endettement, ça, ce n'est pas forcément quelque chose d'intelligent.
L'investissement public, c'est pas que du capitalisme.
Oui, mais l'investissement public.
Quand on émet de la dette sur les marchés, c'est de la dette.
C'est pour ça que la dette est un instrument.
Si on fait de la dette, il faut trouver des financements.
Bien sûr, la dette est déjà un instrument beaucoup plus intéressant que la confiscation.
C'est vrai qu'il y avait cette phrase, alors que cette phrase a été pondérée ensuite par les auteurs.
C'est très bien si on investit.
On lit texto dans le rapport que tout ça viendra des politiques budgétaires, mais pas de l'innovation ni des marchés. Alors là, on s'est dit waouh.
C'est une forme d'arrogance de la technocratie
non,
française.
Non, mais en fait, ils expliquent derrière que dans un premier temps, le marché ne suffirait pas et qu'il faut impérativement que la puissance publique soit derrière, sinon ça ne prendra
même
pas.
La puissance publique qui a fermé Fessenheim serait la mieux placée pour ensuite conduire une politique écologique. Okay. Moi, j'y crois moyen.
On en parlera. C'est la pub. On se retrouve tout de suite. On a bien trois bons thèmes. Je ne sais pas si on pourra parler si j'ai suivant du coup. Tiens, allez, à tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Fergan Azihari, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines. Il a publié Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée aux éditions Les Presses de la Cité. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Bien voilà, même Fergan veut nous endetter, écrit cet auditeur. Ou éditrice, je ne sais pas.
Mais l'endettement à des fins productives n'a jamais été quelque chose de négatif. Le problème en France, c'est qu'on s'endette depuis des décennies.
Oui, pour la vie courante.
Pour la vie courante. Il est là.
Par rapport à tout ce qu'on a dit, vous voulez repartir sur quoi, Mathieu ?
Il
y a tout ce qu'il faut pour s'occuper là.
Hein. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Non, mais parce que ce rapport ouvre beaucoup de portes, en tout cas dans la discussion. Hein, effectivement,
le gouvernement les fait.
On est face à une révolution industrielle, mais qu'on doit organiser. C'est-à-dire, c'est pas le marché qui spontanément crée cette révolution. Donc, elle est administrée quelque part. Et donc, c'est comment on organise tout ça avec des coûts budgétaires qui sont quand même. On va dire colossaux. Alors, on parle de 66 milliards d'investissements privés et publics. Hein.
Oui, c'est 34 milliards d'investissements publics.
Voilà. Ce qui paraît une somme quand même importante. Et surtout, les coûts sont surtout au début. Parce qu'après, vous gagnez, en fait, avec les investissements réalisés sur l'efficacité énergétique. C'est la courbe Angie. Voilà. Vous regagnez aussi parce que vous supprimez tout ce qu'ils appellent les dépenses brunes, les niches fiscales sur les dépenses brunes.
J'attends de voir. Hein.
Mais j'attends de voir.
Quand on va dire aux taxis, aux BTP, aux routiers.
Routiers, pêcheurs, ouais, agriculteurs.
Les Corses.
Ça fait du monde. Et du coup, effectivement, est-ce qu'ils seront compensés ou pas? Sur la question de la fiscalité, c'est un point important. La question, c'est est-ce qu'on peut tout faire par la dette ou pas? Moi, je trouve qu'effectivement, ce que dit Pisani-Ferry est assez juste là-dessus. Il dit... On a eu plein de mauvaises raisons de s'endetter. Là, c'est une bonne raison de s'endetter. Donc, c'est vrai, pourquoi pas tout faire par la dette? Tout flécher par la dette, mais en même temps, on part d'un niveau de dette qui est quand même relativement élevé, hein, qui va poser quand même la question des financements à la fin. Et donc, est-ce qu'il faut une participation fiscale ou pas? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'historiquement, alors c'était plutôt les périodes de guerre.
C'est un dilemme, ça. Il n'y a pas que la dette, il y a la souscription d'actions, il y a le capital risque.
À un moment, l'investissement public, il faut bien le payer. L'investissement public, c'est du budget public. Quand il y a 30 milliards de dépenses publiques en plus.
La question qui se pose, c'est est-ce que l'investissement public est aussi le mieux placé? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire appel au capital privé pour financer?
Là, pour le coup, c'est à la moitié-moitié. Hein, dans le rapport Pisani-Ferry,
il y a une partie des entreprises et ménages.
Et l'investissement public, quand il va falloir faire des infrastructures publiques, quand c'est des bâtiments publics, quand vous avez un certain nombre même de l'énergie sur certaines questions énergétiques. Donc, bon, ça a été chiffré hein, dans le rapport Pisani-Ferry, on peut le discuter. Donc, c'est est-ce qu'il y doit un financement en particulier sur la fiscalité? C'est vrai que aujourd'hui, moi, je ne vois pas comment tout publiques. Ça boucle. Si... Non, mais...
Ou la réallocation des dépenses publiques, ça.
La réallocation des dépenses publiques, on doit le faire
jamais,
déjà.
Jamais.
Les dépenses militaires, il y a un engagement, il y a une loi de programmation militaire. On a le chantier de la santé, de l'éducation. je ne crois pas que ça bouclera par du redéploiement. Donc en fait, soit on fait que de la dette, soit il va falloir trouver des ressources fiscales. La question, c'est où est-ce que vous trouvez les ressources fiscales pour financer cette transition énergétique ? Moi, j'aimerais dire, il serait bien de ne pas augmenter les impôts. Mais est-ce que c'est possible, dans un monde où il y a une demande sociale importante sur la santé, l'éducation, sur la transition écologique, de se passer des augmentations de prélèvements obligatoires ?
Partez du principe que la dépense publique peut être optimisée aujourd'hui.
C'est optimisée, le problème,
c'est quand même un parti pris discutable.
Il faut regarder où on en est et regarder même l'efficacité sur le service public.
Il y a des pays qui dépensent moins que nous et qui ne sont pas plus misérables que nous.
C'est sur la dépense sociale où on est élevé, c'est sur les retraites et la santé où on mutualise. Alors vous pensez qu'il faut peut-être en sortir de cette mutualisation. Mais quand vous regardez le poids des fonctionnaires, par exemple, la dépense publique, qu'ils soient juste aux fonctionnaires, c'est à peu près 20% de la dépense publique. En fait, si vous voulez, une grosse partie, c'est le bloc social.
Et les retraites.
Et l'éducation.
Mais ça en fait partie.
Les retraites en fait partie. On vient de faire une réforme qui a été quand même assez compliquée à réaliser. Et vous avez aussi tout le volet de l'éducation. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ne crois pas aux formules magiques, aux formules miracles, c'est-à-dire qu'on va réussir à redéployer les dépenses, on va avoir de la croissance, alors même que le rapport dit, en fait, on va perdre en gain de productivité, on va perdre 0,25 points. Donc, notre croissance potentielle est quand même assez entamée. Il y a le vieillissement de la population.
On raisonne toutes choses égales par ailleurs.
Pardon ?
Parce c'est pas faux.
On raisonne toutes choses égales par ailleurs.
Non, c'est pas faux. On raisonne toutes choses égales par ailleurs. Quand on fait des modèles.
On peut faire des réformes structurelles pour optimiser la dépense publique et la croissance économique, comme d'autres pays l'ont fait avant nous.
Les gains de productivité, peut-être que l'intelligence artificielle va nous amener des gains de productivité phénoménaux.
Mais
ce qu'on voit, c'est que partout dans le monde, vous avez la question de la stagnation séculaire. Les économistes ne l'ont pas inventé. C'est un grand débat qui est de dire, en fait, aujourd'hui, depuis. Il y a un certain nombre d'années, on a un ralentissement très fort des gains de productivité et des vieillissements importants des populations qu'on retrouve partout, y compris sur les pays qui font des réformes structurelles. C'est plus compliqué que
ça. La France est quand même le très mauvais élève de l'OCDE en matière de croissance économique.
En croissance potentielle, on n'est pas plus mauvais que la moyenne européenne. D'ailleurs, ça fait partie des raisons pour lesquelles on est dégradé sur notre note, mais qu'on n'est pas non plus
dans la situation. Par rapport à ce qu'on a dit, parce qu'effectivement, c'est audible tout ce qui est dit là. Allez-y, Jean-Marc.
Oui, tout de même. Premièrement, pour le gouvernement, on est dans le moment Bush. Je ne sais pas si vous vous souvenez, George Bush père, en 1988, campagne électorale, il dit « Read my lips, no new taxes ».
C'est exactement ça.
Voilà. Mmh. Et évidemment, ensuite, les impôts ont été augmentés. Parce que les États-Unis étaient dans une situation telle qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Deuxième point, oui, la transition écologique est le chantier majeur du 21e siècle. Et pour la réussir, il faudra toutes les forces. Donc il faudra de la réglementation, il faudra des taxes, il faudra de l'endettement, il faudra de l'innovation monétaire. Il faudra aussi associer absolument les forces du capitalisme, parce que le capitalisme est un levier extraordinairement puissant, et si on se prive de ce levier-là, on aura beaucoup de mal à faire la transition écologique. Donc il faut, moi je crois qu'il faut vraiment utiliser absolument tous les moyens. En même temps, il ne faut pas être naïf. La comparaison avec la révolution industrielle, elle est en partie fausse, parce que la révolution industrielle, c'était pour faire plus. Là, une bonne partie de l'enjeu, c'est de faire moins, notamment moins d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc ça nécessite des modèles financiers qui sont des modèles assez différents, dans lesquels on aura fatalement, moi je crois, des intrications public-privé. Privé parce que, encore une fois, le levier, c'est le levier le plus puissant, mais public parce qu'on est dans une logique qui est très différente de celle sur laquelle on a vécu il y a un siècle et demi.
Moi, j'ai tant à penser quand même, Fergan Ezeheri, que vu l'ampleur de l'histoire, si la puissance publique et l'argent public ne participent pas au début, le virage n'existera pas.
Oui, mais dans ce cas-là, encore faut-il se demander comment faire en sorte que cet argent public soit employé de la manière la plus judicieuse possible.
Oui,
là où moi je suis toujours un peu sceptique, c'est
Ça, je comprends le scepticisme.
Parce que la dépense publique, c'est très facile de dire dépenser plus. La question, c'est quelle garantie on offre que cette dépense publique est efficace quand on sait aujourd'hui que les incitations politiques et administratives ne sont pas les mêmes. Voilà. Quand on parlait tout à l'heure du rôle de la puissance publique dans la transition écologique, quand vous avez une puissance publique qui aujourd'hui, pour des considérations politiciennes, eh bien, n'a aucun complexe à saboter son outil industriel en fermant Fessenheim. Est-ce que ça vous donne vraiment confiance dans la sagesse de la technocratie française à conduire? Quelle entreprise privée aujourd'hui aurait un outil de production et se dirait tiens, je vais m'en débarrasser comme ça juste pour faire plaisir à quelques franges d'écolos radicaux? Quel entrepreneur raisonne ainsi? La technocratie française, elle raisonne comme ça. Elle s'autorise à fermer un outil industriel qui marche, qui permet d'approvisionner la France en électricité décarbonée pour des considérations politiciennes.
Là-dessus, cet exemple-là, effectivement, est recevable.
Pardonnez-moi, en effet, de penser que j'ai davantage tendance à penser que des entrepreneurs qui ont tout à perdre ou tout à gagner selon la qualité de leur solution, eh bien, sont plus à même de conduire cette révolution industrielle que des technocrates qui ne paient jamais absolument personnellement le prix de leurs erreurs. Et j'ai quelques précédents, pardon, qui vont quand même un petit peu dans ma direction.
Oui, Jean-Marc Vittori.
Et on peut gérer même les finances publiques différemment en ayant davantage de soucis d'efficacité. Je voudrais juste un exemple qui m'a frappé récemment. Il y a 30 ans, la dette publique de la Belgique rapportée au PIB, elle était 4 fois la dette publique française. Aujourd'hui, la dette publique française est supérieure à la dette publique belge, toujours rapportée au PIB. Est-ce qu'on ne peut pas, même en regardant ailleurs, voir si on ne peut pas faire les choses un peu autrement?
Ça, je suis bien d'accord.
Et quelle incitation?
Non, mais...
La technostructure à faire autrement.
Quand vous voyez,
c'est la vraie question, c'est la seule objection à laquelle on ne répond jamais.
Il y a qu'à voir les pays de la zone euro avec les mêmes contraintes extérieures depuis 2020
évidemment.
Et la même monnaie, on voit bien que les trajectoires d'endettement ne sont pas les mêmes. Alors effectivement, tout le monde n'a pas le modèle social aussi gourmand que le nôtre dans tous les pays. Vous vouliez réagir? Non, pas trop long, parce que je voudrais qu'on parle de la théorie des avaries.
Je pense que sur la puissance privée, bien sûr qu'elle doit être présente et elle va contribuer à la transition énergétique. Mais la transition énergétique, c'est quand même aussi énormément de contraintes et une baisse de la rentabilité du capital. En réalité, c'est pour ça que ces investissements privés ne vont pas être naturels, parce que vous allez taxer plus, vous allez avoir moins de rendement, c'est de l'efficacité énergétique, c'est pas de l'efficacité financière. En réalité, il faut faire attention à ça, et c'est pour ça que la puissance...
D'où la nécessité de combiner du public et du privé.
Voilà. Alors, justement, il faut mettre une taxe sur le carbone importante pour justement créer des incitations fortes sur certains investissements et justement sur des investissements verts qui pourraient rapporter plus. Ça, c'est le premier point. Donc, du coup, il faut forcément une association public-privée. Je suis d'accord, et peut-être qu'il y a une forme de myopie de la puissance publique, mais aujourd'hui, cette transition, elle est quand même insufflée par la puissance publique et pas que par le secteur privé. C'est par les contraintes. Sinon, de toute façon, on n'y arrivera pas. Premier point. Et deuxième point, je pense, qui est peut-être assez peu évoqué dans le rapport, il me semble, c'est qu'on parle beaucoup de cette fiscalité du capital. On parle de une taxe de ce qui ferait à peu près 5 milliards par an.
Le retour de l'ISF, ça a fait les chiffres verts, etc. Toute la presse.
Mais en fait, c'est juste pour financer une partie de l'investissement public. Je rappelais, c'est un peu plus de 30 milliards par an d'investissement public. Donc, c'est 5 sur 30. Donc déjà, il en manque à peu près 25. Premier point. Deuxième point, ce que dit le rapport, c'est qu'en fait, la transition énergétique, elle est très inégale. Parce que tout le monde n'est pas exposé de la même façon, selon le secteur dans lequel vous travaillez, les bâtiments dans lesquels vous logez, votre mode de transport. Donc, certains disent qu'il y a à peu près une année de revenus, ce qu'on disait tout à l'heure, en moyenne par ménage à investir. Sauf que tous les ménages ne peuvent pas le faire. Donc certains vont devoir être compensés. Ou des secteurs perdants vont devoir être compensés. Mais personne ne dit qui va compenser. Parce que ça veut dire, à taux de prélèvement obligatoire, il va falloir faire de la redistribution au sein des... Et donc qui va payer? A priori, les ménages qui sont les plus aisés. On va pas prendre sur la classe moyenne pour refinancer sur la classe moyenne. J'y crois pas une seconde. Donc c'est un peu un angle mort, si vous voulez. En fait, on a mis beaucoup le débat sur les 5 milliards qui, à la fin, représentent pas tant que ça. Mais si vous regardez la redistribution entre les ménages est bien supérieur et assez peu évoqué à mon avis.
Et règlement des rapports Nord-Sud
qui est absent du rapport,
qui est complètement absent, et pour moi c'est quand même le signe qu'on ne prend pas les choses au sérieux, parce que c'est quand même les choses se sont...
Mais si on veut faire de l'efficacité,
Jean-Marc Vittori.
Oui, avec des choix politiques derrière qui sont des choix compliqués. Juste deux points. Premièrement, demain il n'y a plus que des voitures électriques. Il manque 35 milliards d'euros dans les caisses de l'État.
Ah oui,
Eh oui, la taxation sur les carburants. On parle de... Mais 35 milliards, donc c'est absolument colossal. Deuxième exemple, indemniser les gens qui sont les plus pénalisés. OK, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent et qui a choisi de vivre à 100 km de l'endroit où il travaille. Est-ce que vous allez l'indemniser?
Oui, c'est une question.
Moi, ça me paraît totalement aberrant de l'indemniser. Parce qu'il a choisi, il ou elle a choisi de se mettre dans des situations intenables avec une énergie qui renchérit. Donc,
certains vous diront qu'il n'a pas choisi, qu'il a été
contraint. Alors 100 km, c'était beaucoup.
En France, partout, sauf pour le cœur de Paris, vous pouvez vivre à moins de 20 km de l'endroit où vous travaillez.
Après, on renvoie à la question du logement quand même, qui était la question
partout,
initiale.
Partout. Donc, il y a d'autres considérations. Il y a le fait d'avoir une mère qui va pouvoir garder les gamins, etc., qui sont des trucs importants. Mais si les gens choisissent d'habiter à 100 km de l'endroit où ils travaillent, il y a un vrai problème.
Il faut savoir que 80%, je crois, des gens vont travailler en voiture. C'est-à-dire que effectivement,
j'ai pas le chiffre en tête.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même une. Là-dessus, c'est quelque chose d'assez considérable.
Vous rappeliez Bush-père, sauf que les Américains, quand ils décident de monter les impôts, ils partent de niveaux relativement bas qui leur donnent de la marge de manœuvre. Je rappelle qu'on a un niveau de prélèvement obligatoire dans lequel il y a les cotisations sociales, bien sûr, qui est record du monde à égalité avec le Danemark, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. C'était essentiel ce que vous disiez sur l'absence de rentabilité du capital. Une usine qui décide de mettre au rebut l'ensemble de son dispositif de production pour le verdir intégralement, elle produira la même chose. Dans la même quantité.
Je suis pas sûr que l'automobile serait passé tout à l'électrique d'ici 2035 si on avait pas mis des contraintes.
Oui. Okay, non, allez-y, Fergane. Mais je veux avancer parce qu'on a plus de 13 minutes.
Je pense qu'il faut aussi prendre de la hauteur et rappeler que ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à un impératif de montée en gamme écologique qui va renchérir le coût de la vie. Je veux dire, les voitures du 21e siècle n'ont plus rien à voir avec les voitures du début du 20e siècle. Elles sont soumises à des normes de sécurité, des normes anti-pollution qui sont beaucoup plus ambitieuses que qu'hier. Les usines aujourd'hui sont soumises à des normes anti-pollution, à des dispositifs de traitement des fumées qui ne sont plus du tout les mêmes, qui fait qu'on a des usines qui sont beaucoup plus propres par rapport à ce qui se faisait il y a deux siècles. Tout ça a contribué à renchérir sans doute, toutes choses égales par ailleurs, le coût des marchandises. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, personne ne regrette le temps des usines qui fument et personne ne regrette la Renault 4L. Pourquoi ? Parce qu'entre temps, on s'est enrichi et donc la croissance économique a aussi permis d'absorber le coût de la montée en gamme écologique de nos produits du quotidien. Donc l'une des variables qui va conditionner la réussite de la transition écologique, c'est est-ce qu'on arrivera aussi à générer de la prospérité pour amortir le plus possible le coût de la transition écologique. Et là, effectivement, ça pose la question aussi bien de la robustesse de notre croissance, parce que oui, s'il y a plus de voitures électriques en Suisse que dans les rues de Bamako, c'est bien parce qu'il y a des peuples qui peuvent se permettre davantage d'acquérir des véhicules et des produits propres que les autres. Et donc ça, c'est aussi un moyen de rappeler qu'il faut articuler la question de l'écologie avec celui de la prospérité industrielle, sinon ça ne marchera pas.
Mais Mathieu Plane,
il y a un point intéressant quand même là-dessus aussi, hein, c'est qu'on voit les enjeux majeurs de la décennie, en fait, hein, aussi sur les questions industrielles. On voit quels sont les vecteurs qui permettent quand même d'être leader sur un certain nombre de points, parce que tout le monde est en train de, quand même de s'engouffrer là-dedans, sur ces technologies vertes. Et puis l'autre point, c'est quand même qu'il faut rappeler, la France, l'année dernière, a eu un déficit commercial lié à l'énergie, aux hydrocarbures, de 115 milliards d'euros. Donc c'est vrai que si on est capable de décarboner notre production et d'économiser ce déficit commercial, parce qu'en fait, on est quand même très dépendant de ces hydrocarbures, ça fait quand même, finalement, sur la question de la compétitivité et de la balance commerciale, un enjeu majeur. Enfin, le choc énergie, il nous a coûté quasiment 3 points de PIB l'année dernière, ce qui est pas rien.
C'est une mutation du monde dans laquelle la France peut
gagner. Voilà, en fait, ce que je veux dire, elle a quelques atouts, en fait, il va falloir bien les déployer, mais elle peut avoir quelques atouts.
C'était mardi dans Les Échos, Jean-Marc Viteri, il n'y a pas que la loi et les taxes contre le changement climatique. Je me suis dit, mais que veut-il dire ? Et là, je découvre en vous lisant la théorie des avaries communes. J'ai adoré.
Oui, alors c'est.
Il y a un peu d'ironie dans votre papier.
Non, pas tant que ça.
Vous dites à la fin qu'effectivement, ça va être compliqué.
Les trois quarts d'heure qui viennent de se passer montrent que c'est compliqué.
Mais c'est ce que je me suis dit. On voit la complexité du sujet dans les échanges qu'on vient d'avoir.
Le principe est simple. Hein. Il y a un navire qui est chargé de marchandises, qui est pris dans une tempête. Et le capitaine estime que la seule façon d'éviter le naufrage, c'est de balancer une partie de la cargaison par-dessus bord. Et donc, il balance une partie de la cargaison. Il y a différents transporteurs qui ont... Voilà, il peut y avoir des blocs de marbre, des ballots de tissu, des conteneurs de montres et des conteneurs d'habits qui n'ont pas la même valeur. Voilà, on balance pas. Le capitaine décide d'en balancer une partie par-dessus bord. Le bateau arrive au port. Et qui va payer ça ? On va dire c'est les blocs de pierre et puis les conteneurs, tous les conteneurs, voilà, les gens qui ont perdu des conteneurs qui vont payer. Ben non, il y a un principe de droit maritime qui est très ancien, hein, dont on a des traces il y a plus de deux millénaires. Il y a un principe de partage qui est autre que celui-ci, c'est on a un péril commun. Tout le monde était dans la même barque, dans la même embarcation. Et donc, il faut que les pertes soient partagées. Et elles sont partagées proportionnellement à la valeur de ce qui a été perdu. Et donc, tout le monde perd. Tous ceux qui ont transporté des marchandises perdent. Et ils perdent proportionnellement à la valeur totale qui a été jeté par-dessus bord. Et donc, c'est un principe de solidarité et qui peut faire appliquée, qui pourrait être appliquée à la transition, enfin aux problèmes environnementaux. Hein, donc c'est une équipe, hein, une équipe de l'équipe des mines qui est assez créative, qui est une équipe.
C'est assez créatif, comme vous dites.
Qui avait été créée par Armand Attuel il y a plusieurs décennies. Maintenant, il y a toute une, c'est devenu une vraie école. Il y a Blanche Segrestin, il y a Kevin Levillain, il y a une toute jeune qui s'appelle Charlotte de Monsan qui ont travaillé sur ce point. Ils prennent l'exemple, par exemple, des ZFE. Quand il y a une ZFE qui est créée dans une ville aujourd'hui, le système, ça consiste à faire payer la note par les gens qui doivent changer leur voiture. Et qui profite de la ZFE? C'est pas seulement le gars qui change la voiture, c'est tout le monde. C'est notamment les gens qui habitent en ville et qui ont une ville où l'air est plus pur, donc ils ont une espérance de vie qui monte. Et donc l'idée, ça serait de faire payer tous ceux qui profitent de l'amélioration, et non pas ceux qui sont responsables. Alors le principe de responsabilité, hein, il est très ancien. La taxe carbone, tout ça, c'est le principe, c'est le pollueur-payeur. C'est un principe très puissant, mais qui pose des problèmes d'équité qui sont absolument redoutables, qu'on a évoqués. Et donc là,
c'est pour ça qu'elle doit être redistributive.
Là, on règle en même temps le problème d'efficacité et le problème d'équité. Alors c'est une piste qui est très compliquée, oui, ça pose plein de questions, mais on a bien vu que la taxe carbone, c'est incroyablement compliqué, qu'on a des asymétries totales, des coûts d'abattement qui sont totalement différents parce qu'on n'a pas la... Donc voilà, il peut y avoir d'autres pistes pour faire celle-ci, dont pour essayer d'avancer sur cette question. Donc celle, donc, des avaries communes.
S'ouvrir l'esprit comme ça un petit peu. Non, mais c'est vrai, la solidarité de tous face à un péril commun, c'est vrai qu'on pourrait considérer que ça a un côté universel quand on est face à un enjeu universel.
Le péril commun, du coup, universel, il est du coup mondial.
Oui. Ah oui, universel. Vraiment oui, universel, non,
Ensuite, il y a des problèmes d'articulation au niveau local, au niveau national, au niveau mondial. Il y a toute une série de problèmes. Mais dans la réglementation et dans la taxation pollueur-payeur, on a aussi toute une série de problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre.
Pour alimenter ce que dit Jean-Marc, évidemment que tout le monde doit contribuer à la transition écologique. Moi, je voudrais juste souligner...
Le mot, c'est quand même payé.
À proportion des richesses.
Le mot, c'est payé.
Non, mais très bien. Mais je veux dire, on présente toujours, si vous voulez, ce jeu comme une espèce de jeu à somme nulle. C'est pas nécessairement un jeu à somme nulle. C'est ce que je voudrais insister. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure des rapports Nord-Sud. Ce qui va conditionner la réussite de la transition écologique à l'échelle mondiale, c'est notamment la capacité, je crois, des pays du Nord à mettre en œuvre les transferts de technologies nécessaires pour permettre aux pays émergents de subvenir à leurs besoins sans recourir aux énergies fossiles. C'est pas nécessairement un jeu à somme positive. Je veux dire, il y a des coopérations mutuellement profitables qui peuvent se nouer ici. Vous savez, on parlait tout à l'heure de la révolution industrielle. La révolution industrielle française ne s'est pas déclenchée toute seule dans un contexte tarsi. Les Français ont eu recours à des capitaux étrangers pour développer leurs premières infrastructures, comme les chemins de fer et compagnie. Non pas que les Anglais sont arrivés la main sur le cœur, simplement ils ont investi dans des infrastructures qui étaient socialement utiles, qui étaient rentables, ils en ont tiré des dividendes, on en a tiré des infrastructures. Dans le secteur de l'énergie, c'est pareil, il y a des relations mutuellement profitables qui peuvent se nouer. Il y a un pays qui l'a compris, c'est la Corée du Sud. Aujourd'hui, la Corée du Sud, c'est un de ces rares pays de l'OCDE qui a une stratégie très intéressante en matière d'exportation de réacteurs nucléaires, par exemple. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont toquer à la porte des pays comme la Pologne, les Émiratis, le Brésil. Ils vont leur dire, vous voulez une énergie abondante à décarboner, c'est très simple, eh bien, on va vous en vendre. Et ce genre de politique a quatre vertus sur le plan économique et environnemental. Économique parce que vous ouvrez des débouchés pour votre industrie nationale. Économique parce que vous enrichissez votre partenaire commercial et donc vous enrichissez l'humanité. Environnemental parce que vous réduisez les émissions territoriales de vos partenaires commerciaux. Et environnemental enfin parce qu'en réduisant les émissions territoriales de vos partenaires commerciaux, vous jouez aussi sur vos émissions importées. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut nouer des solidarités sur le plan climatique, environnemental et économique, qui ne constitue pas nécessairement un jeu à somme nulle. Et moi, je regrette en effet que la question environnementale soit toujours envisagée à travers un prisme sacrificiel. Je ne suis pas certain que c'est comme ça qu'on mobilise les incitations à résoudre ce défi.
Bon, j'ai deux sujets. Je ne sais pas si on aura le temps de faire les deux. Je me suis posé la même question que vous, Jean-Marc Vittori, cette semaine, sur l'histoire du double A de la France. Double A moins, là. On a la réponse de Fitch le 2 juin. Je me suis dit, mais fondamentalement, d'où il vient ce double A? Puisque quand on voit l'état de nos finances publiques, quand on compare les trajectoires de dette et de déficit par rapport à des pays proches de nous, évidemment, les pays les plus vertueux d'Europe qui ont la même monnaie, mais on se dit, mais comment on peut être aussi bien noté que certains de ces pays avec nos finances publiques? Et en fait, je me suis dit qu'on était too big to fail.
On est un peu chouchouté par les agences de notation, on pourrait se dire, hein, quand on regarde, ouais, quand on regarde les chiffres, hein, la perspective. Donc la France en déficit depuis pratiquement un demi-siècle. Avant la crise sanitaire, hein, qui a complètement bousculé les cartes, c'était le déficit public le plus important de la zone euro en pourcent du PIB. Ça ne traduit pas une gestion des finances publiques optimale. Quand on regarde aussi les pays qui ont la même note que la France, et que vous regardez leur dette, je rappelle, hein, que la notation, c'est la capacité d'un pays à rembourser sa dette en temps et en heure.
C'est la seule valeur.
C'est une appréciation de la dette et de la capacité à honorer sa dette. Les pays qui ont la même note que la France, chez Standard & Poor's, je crois, ils ont une dette, un ratio de dette, hein, qui est la moitié du ratio français. Et quand vous regardez chez les deux autres grandes agences, hein, Moody's et Fitch, celles qui ont entre 100 et 120% de dette publique toujours rapportée au PIB, elles ont une note en moyenne, hein, inférieure de 5 crans.
Crans. Ouais, c'est beau. Il y a une dizaine de crans par agence.
Une vingtaine plutôt.
Vingtaine de crans par agence.
Oui. La France a une situation particulière. On pourrait dire qu'elle a une trop bonne note.
Voilà. Il y a un peu de ça, oui.
Et ce qui est intéressant, c'est de vous... Et quand vous dites ça aux agences de notation, elles vous disent... À raison, nous, on fait pas que du chiffre, on fait aussi de l'appréciation. Et ce qui est intéressant, donc, c'est d'essayer de voir ce qu'il y a entre le chiffre et l'appréciation. Et
politique.
Une appréciation qualitative.
Oui, non, mais il n'y a pas de modèle parfait.
Voilà, il n'y a pas de modèle parfait.
La question de la soutenabilité de la
Donc, il y a plusieurs choses en France. Premièrement, il y a une stabilité. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais on a une stabilité tout de même politique. On a des institutions qui permettent normalement de dégager quelque chose qui ressemble à une majorité. Alors là, c'est un peu menacé, mais on a une
fiscale qui est très performante.
On a une stabilité économique avec, comme on a un poids très élevé de la dépense publique au sens large, y compris les dépenses sociales, y compris donc les retraites, dans le PIB, le bateau il tangue moins quand il y a de la tempête. Hein. On a des cycles conjoncturels qui sont moins marqués et donc pour dégager de quoi payer, rembourser la dette, c'est plus facile. On a une administration fiscale qui est très performante.
C'est la clé. Hein.
Vous allez dire, regardez, allez voir en Italie.
Personne ne doute qu'elle est performante.
Moi je pense qu'on a aussi un consentement à l'impôt en France, qui est, malgré tout ce qu'on dit, qui est loin d'être négligeable. On proteste moins, on n'ira pas jeter des ballots de thé dans la mer parce que...
Les gilets jaunes et...
Mais t'es quand même au bord de l'Élysée.
Non mais c'est...
Ça a été un moment un peu compliqué.
Oui, mais parce qu'il y avait un sentiment profond d'injustice. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient l'impression...
Ça part d'une question fiscale.
Oui, l'impôt n'était pas contesté en tant que tel. C'était plus
Il y a un consentement, donc une efficacité aussi de l'administration qui emprunte. Hein. Alors ça, c'est un truc technique, on n'en parle jamais. Mais l'Agence France Trésor, quand vous allez là, vous avez des gens qui sont brillantissimes. Hein, les États-Unis, les esprits brillantissimes, ils sont dans les cabinets d'avocats et dans la recherche. En France, ils sont pour émettre, pour se placer des titres de dette. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi effectivement d'autres questions. Il y a le fait que un investisseur veut vendre massivement la dette française,
elle est très liquide,
et qu'il veut acheter, il faut qu'il achète autre chose, il peut pas garder ça, il va pas garder ça, et donc là l'alternative, il y a pas grand chose. Il aurait pu avoir l'Italie, mais il y a pas
l'Italie. Il y a 30 secondes,
il y a aussi beaucoup d'épargne. On a un niveau d'épargne.
Ah, épargne financière.
C'est
ce qui a justifié.
Et on a une démographie qui est plutôt dynamique, si un vieillissement un peu.
Et derrière, il y a aussi des banques et des assureurs. Qui sont solides. Et les banquiers et les assureurs, ils achètent beaucoup de dettes nationales.
On a fini, regarde un mot si.
Non, je ne serai pas aussi laudatif, ce ne sera pas la prochaine fois.
Gardez.
On aura essayé de comprendre pourquoi.
La prochaine fois, on aura S&P pour s'amuser avec la note.
Là, ce qui est important, c'est que les marchés considèrent que la dette française n'est pas risquée. Le spread avec l'Allemagne ne bouge pas.
C'est fini. Merci Fergan Aziari, Mathieu Plane, Jean-Marc Vittori. Rendez-vous lundi 9h.